Bonsoir. France, patrie des droits de l'homme. Et si ce n'était qu'une vue de l'esprit, l'exclusion des Roms, les projets de déchéance de nationalité, la politique de sécurité du gouvernement mis bout à bout et annoncée en série pendant l'été, tous ces éléments déclenchent un malaise, à tel point que l'Église catholique, elle aussi, a réagi sur un terrain éminemment politique, ce qui n'est pas si courant. Et ce n'est pas tout. Hier, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance a mis la France en garde contre toute stigmatisation d'un groupe humain, les Roms en l'occurrence. L'ONU également interpelle la France. Son comité pour l'élimination de la discrimination raciale a d'ores et déjà annoncé, je le cite, un manque de volonté politique du gouvernement face aux actes racistes. Quant aux journaux, leurs colonnes ne désemplissent pas de critiques sur le thème Rome bouc émissaire. Mêmes échos dans la presse étrangère, comme l'indique par exemple ces deux titres à la une, la politique du scandale pour le journal allemand Die Tageszeitung ou le principe d'égalité passé au Karcher, ça c'est pour le New York Times. Alors la France, terre d'écueil, à voir. En tout cas, vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités sur ce thème, nos invités que je vous présente. Dominique Sopo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président d'SOS Racisme. À nos côtés également, Monseigneur Bernard Potvin, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole de la Conférence des évêques de France. Malik Salemgour est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Ligue des droits de l'homme et président de l'ENAR France, réseau européen de lutte contre le racisme. Et au téléphone avec nous également, Éric Ciotti, bonsoir. Vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes, président par ailleurs du conseil général de ce même département et secrétaire national de l'UMP en charge des questions de sécurité. Merci de votre présence au téléphone sonne.
01 45 24 7000.
Avec une première question standard, Marjolaine de L'Haÿ-les-Roses, bonsoir.
Bonsoir. Vous m'entendez ?
Très bien, allez-y, posez votre question.
Alors, d'abord, merci de prendre ma question. Donc, c'est une question rapide pour vous échauffer. Donc, depuis le début, on parle des Roms qu'on reconduit en Roumanie. Et pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas des Roumains reconduits en Roumanie, ni des Bulgares reconduits en Bulgarie ? Donc, en fait, qui sont les Roms ? Est-ce que c'est pareil que les Gitans, les Romanichels, les Manouches, les Tziganes ? Enfin, il y a beaucoup de mots pour les appeler. Et donc, il y a un peuple qui est représenté dans tous les pays d'Europe.
Mais merci de poser cette question parce que finalement la méconnaissance des Roms constitue probablement un terrain favorable à leur stigmatisation comme toute méconnaissance. Donc il est utile de faire un peu de pédagogie. Effectivement, qui sont-ils, qui peut nous répondre à cette question?
Je vais bien commencer. Sur les Roms, en effet, c'est d'abord une minorité ethnique reconnue comme telle en Roumanie. Et c'est vrai que les statistiques de la France ne permettent pas de distinguer un Roumain de minorité magyare, c'est-à-dire hongroise, un minorité rome ou un Roumain de la majorité de Roumanie. Mais sauf que en pratique, sur les 9863, je crois, de mémoire expulsions l'année dernière de Roumains et de Bulgares, 95% étaient des Roms, parce que justement ceux-ci sont repérables, étant notamment vivant dans des conditions de très grande précarité dans des bidonvilles. Donc c'est en cela que ce sont essentiellement des Roms. Après, c'est une minorité qui a une histoire particulièrement tragique, notamment sur le territoire de l'Union Européenne, savoir qu'ils étaient par exemple encore soumis à l'esclavage jusqu'en 1856 sur des territoires de Roumanie. Ensuite le servage, ensuite assimilés et intégrés, obligé de devenir sédentaire, ce qui fait que l'essentiel des Roms de l'Union européenne sont maintenant sédentaires. Hormis, en effet, des gens qui sont français, qui choisissent de vivre du voyage, qu'on appelle gens du voyage en France, parmi lesquels il y a une minorité qui sont des gitans, des tziganes ou des manouches.
Mais c'est vrai, il ne faut pas confondre effectivement Roms et gens du voyage. Un seul l'élite des origines très lointaines. Alors donc c'est un même peuple nomade qui a quitté le nord-ouest de l'Inde, c'est au début du XIe siècle, qui s'est dispersé à travers l'Europe effectivement. Et en France, le terme de Roms désigne, selon les chiffres en ma possession, les 15 000 immigrés récents venus de Roumanie et de Bulgarie. Les gens du voyage, en revanche,
et
ils sont 400 000, ils sont à 95% français. Hein. Vous vouliez ajouter quelque chose, Dominique Sopo?
Ce qu'on peut ajouter, c'est que la concentration sur le terme de Roms par le gouvernement lui-même et par le chef de l'État, qui a quand même tenu une réunion sur les Roms, sur une minorité ethnique, sans même d'ailleurs convier qui que ce soit représentant cette minorité, qui est quand même une première, me semble-t-il, sous la Ve République, vise aussi à faire en sorte de dire qu'on ne parle pas vraiment de citoyens européens, mais qu'on parle, j'allais dire, d'une sorte d'excroissance, de problème, et que finalement, il y aurait différentes catégories de citoyens européens. Il faut quand même rappeler que les Roms sont des citoyens européens à part entière, et qu'ils doivent être traités comme tels, et non pas stigmatisés, comme ils le sont aujourd'hui par le gouvernement.
Alors, pourquoi quittent-ils leur pays ?
Ils quittent leur pays, Malik a déjà évoqué une série de difficultés qu'ont vécu les membres de cette minorité.
Mais aujourd'hui,
il faut quand même savoir, on est quand même face à une minorité qui a été profondément déstructurée dans son mode de vie, sédentarisation de force, travail forcé de leur point de vue, quelque part même sous l'ère communiste, stalinienne. Donc on est face à une communauté qui est extrêmement déchirée, qui a été traitée de façon extrêmement stigmatisante par ces pays, en l'occurrence. On voit aujourd'hui, par exemple, j'étais en Slovaquie il y a quelques mois, où les enfants qui sont issus de cette minorité, eh bien, on incite les parents à les mettre dans des écoles pour handicapés en disant qu'ils seront davantage suivis. Mais on voit très bien qu'il y a une logique de mise à l'écart, de stigmatisation, sans compter aussi l'utilisation par les responsables politiques, de logiques populistes. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des logiques populistes et des réactions extrêmement xénophobes. On se souvient, il y a quelques années, et encore aujourd'hui, des murs qui sont construits pour séparer les Roms des non-Roms, j'allais dire, au milieu des rues dans certaines villes. Donc voilà aussi ce que subissent ces populations à l'Est, d'où le fait qu'elles viennent en France parfois en pensant trouver un mieux-être qui manifestement n'est pas ce qui leur est réservé par ce gouvernement.
Alors, Bernard Potvin, rapidement, et ensuite on demandera l'avis d'Éric Ciotti. Bernard Potvin, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France.
J'irais simplement, la simplicité avec laquelle cette auditrice pose la question est révélatrice de la confusion qui règne et de l'énorme travail de pédagogie qui nous incombe. On se trouve devant un devoir de regard européen sur cette question et mondial. Et nos interlocuteurs ont dit avec beaucoup plus de compétences que moi, c'est l'histoire de ce peuple, toutes les épreuves traversées hier et aujourd'hui. Et moi, je me retrouve devant aussi une église qui appelle au nom d'une église, qui appelle à ce qu'on regarde ça d'une façon internationale. Et ça rejoint le propos qui est tenu depuis tout à l'heure.
Alors, Éric Ciotti, face à ce malheur collectif humain, pourquoi cette politique de reconduite ?
Cette politique de reconduite est strictement conforme à l'application de la loi républicaine. Notre pays est régi par des lois. Notre pays, et je veux le souligner parce que j'entends beaucoup d'outrance, est la patrie des droits de l'homme. Elle le demeure, elle le demeurera. C'est un pays qui est généreux en matière d'accueil. 170 000 étrangers ont été accueillis l'année dernière. C'est après les États-Unis le premier pays qui accueille des demandeurs d'asile, des étrangers. Cette tradition, elle doit demeurer, mais elle doit demeurer sur des bases légales. Aujourd'hui, qui peut dire que ce que fait la France en matière de législation sur les étrangers n'est pas conforme à la loi de la République, y compris ce qui est fait sur les Roms? Donc vous avez raison, et j'entends le représentant de la Conférence des évêques de France rappeler que c'est un problème européen, et moi j'adhère totalement à cette démarche. Le problème des Roms est un problème européen. Et la France, en lançant aussi cette politique, veut adresser un message très clair à la Roumanie, à la Bulgarie, à l'Union européenne aussi, pour que chacun assume très clairement ses responsabilités. C'est un devoir aujourd'hui, je dirais, pour la communauté internationale de prendre en charge ce problème. Je rappelle que l'Union européenne déploie des aides extrêmement importantes, 20 milliards d'euros. Je rappelle aussi que la France traite ce problème avec beaucoup d'humanité. L'aide au retour humanitaire, 300 euros pour chaque ressortissant roumain qui accepte de rentrer en Roumanie, 100 euros de plus pour les enfants. Il y a des projets d'insertion également qui sont financés par la France, qui ont connu un trop faible succès. Je rappelle qu'il y a des sommes qui sont offertes par l'OFI qui peuvent aller jusqu'à 3600 euros. Malheureusement, est-ce que vous savez que les autorités roumaines refusent de mettre en place ces projets? Donc,
Éric Ciotti,
on ne peut pas accuser la France de tous les maux, et c'est un problème international. La France respecte ses lois, et je crois que c'est le premier des devoirs d'un gouvernement de respecter et de faire appliquer la loi de la République.
Éric Ciotti, on va revenir à vous et à nos autres invités également. On va prendre une question. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels, donc on va prendre nos auditeurs, notamment Marie qui nous appelle de Lyon. Bonsoir, Marie.
Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Je voudrais savoir comment la Roumanie utilise l'aide, je crois 40 millions d'euros par an. Je voudrais savoir s'il y a d'autres pays d'Europe qui l'aident. Et aussi, si dans cet argent, c'est inclus l'aide des associations caritatives en faveur de l'enfance, qu'ils ont fait un travail considérable avec quand même des retours en arrière.
Alors, oui, on a bien entendu la question et on va y répondre d'abord avec Malik Salemkour et puis Eric Sauty a peut-être des précisions aussi. Alors, Malik Salemkour d'abord.
Déjà, sur le chiffre, je ne sais pas d'où sort ce 40 millions par an. En tout cas, c'est vrai que l'Union européenne soutient massivement la Roumanie et la Bulgarie dans l'intégration de ces minorités roms et notamment dans ces politiques de développement régional et ces politiques du Fonds social pour l'emploi. Ces moyens sont très importants, mais il faut quand même aussi rappeler quelque chose, c'est qu'il n'y a que 15 000 personnes d'origine rome, roumaine et bulgare en France sur 2 millions en Roumanie, sur 700 000 en Bulgarie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et il est inexact de dire, qu'il y a une immigration rome de Roumanie et de Bulgarie. En revanche, il y a des flux migratoires très importants de Roumains, comme par exemple les 700 000 Roumains installés actuellement en Espagne, les 500 000 qui sont installés en Italie. C'est d'ailleurs ce qu'est venu dire le secrétaire d'État aux affaires sociales du gouvernement roumain, au gouvernement français, en disant « mais je suis surpris que vous mettiez autant d'énergie pour ces 15 000 personnes alors que d'autres pays européens peuvent parler des flux migratoires ». Les moyens sont donc importants en Roumanie, mais les problèmes sont très profonds là-bas. C'est un pays qui découvre la démocratie après avoir été sous l'oppression pendant de longues années, qui n'a pas une culture associative, par exemple, qui fait que le tissu humanitaire et le soutien solidaire des territoires doit se faire que par l'État. Mais l'État est en profonde restructuration. Restructuration administrative. Il vit actuellement une décentralisation et qui se met en place. Il nous a fallu, nous aussi, une quinzaine d'années pour que la décentralisation fonctionne. Mais également une crise économique majeure avec des réductions budgétaires très fortes. Pensez que les salaires des fonctionnaires ont été baissés d'un tiers en Roumanie. Que les aides sociales ont été également baissées sur pression du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. Et la France était volontaire pour cette politique. Donc les moyens sont là, mais les efforts sont énormes.
Les moyens sont là, Eric Ciotti.
Les moyens, d'abord, une précision sur les chiffres. La question posée évoquait 20 millions d'euros. 40 millions d'euros, il s'agit de 20 milliards d'euros qui sont les fonds déployés par l'Union européenne pour les programmes d'insertion, d'intégration des Roms, notamment en Roumanie et en Bulgarie. Donc ce sont des moyens extrêmement considérables et il faut aujourd'hui que l'Union européenne ait un moyen de contrôle sur ces fonds, qu'elle s'implique plus, qu'elle s'implique mieux. Moi, je relevais un propos qui m'a frappé, c'est le maire de Barbulesti, et tout à l'heure, un intervenant soulignait ces murs qui avaient été érigés quelquefois dans des communes pour séparer les Roumains des Roms, ce qui est là un acte de racisme, de xénophobie profond. Mais le maire de Barbulesti, j'ai vu ça dans un propos qui était relaté par Le Monde, disait tout ça, c'est la faute du gouvernement roumain qui a fait de nous des voleurs et des mendiants.
Oui, mais Eric Ciotti,
qu'il faut que la communauté européenne se penche sur cette question
d'accord.
et contrôle mieux ses fonds.
D'accord, mais Eric Ciotti, l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, la Roumanie doit faire des efforts, l'Union européenne également, mais la France peut aussi apporter son concours en gardant ces 15 000 Roms qui sont là, non ?
Non, la France ne peut pas accueillir des personnes à qui elle n'est pas en mesure d'offrir un travail, un logement. Je crois qu'on ne peut pas laisser vivre sur le territoire national après les 3 mois qui sont les 3 mois liés à la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne. On ne peut pas décemment laisser vivre des personnes dans des conditions indignes sur le territoire national alors qu'elles n'ont pas de travail. Qu'elles sont, on le sait, parce qu'il ne faut pas se cacher la réalité, qu'elles sont l'objet souvent de manipulations par des réseaux criminels. On voit bien les réseaux de prostitution, on voit bien les réseaux de traite des personnes humaines, les réseaux de mendicité organisée avec des enfants, avec des vieillards, avec des handicapés. Un chiffre sur l'augmentation de la délinquance des Roumains, hein, puisqu'on n'a pas de statistiques sur les Roms, mais sur les Roumains à Paris en 2009, plus 136% d'augmentation des faits de délinquance. Donc, qui peut nier qu'il y a un problème et que la France a le devoir dans le respect, encore une fois, de sa législation, dans le strict respect des droits de l'homme, de régler ce problème avec humanité, mais avec fermeté.
Dominique Faupont, une rapide réponse, je voudrais passer la parole à Bernard Potvin.
Oui, non, mais d'abord, je remarque
que
manifestement, la délinquance augmente. Je pensais pourtant que la politique du gouvernement était efficace en la matière. Mais peu importe. Je trouve quand même scandaleux ce que dit M. Ciotti, qui disait vouloir envoyer un message fort à la Roumanie. Pour l'instant, surtout, il envoie des Roms en Roumanie, plus qu'un message fort. Je trouve absolument stupéfiant de faire un débat national sur 15 000 personnes, Malik l'a rappelé, j'allais dire, de façon assez évidente. On est là quand même dans une politique de populisme qui consiste à jeter à la vindicte publique un groupe de population qui est déjà discriminé, comme M. Ciotti le rappelle, dans son pays d'origine, si je puis dire, en tout cas sur ces derniers siècles. Donc je trouve qu'on est là face à quelque chose qui est stupéfiant, que la France est en train d'être la honte en Europe et dans le monde vis-à-vis de cette politique. Et contrairement à ce que dit M. Ciotti, la France ne respecte pas ses propres lois en la matière, puisque je rappelle par exemple qu'il n'est pas possible de faire des expulsions collectives. Or c'est tout ce que l'on voit tout ce mois d'août, ce que l'on a vu, ce sont des expulsions collectives. Alors évidemment, le temps qu'il y ait des recours au niveau européen, ça prendra 3 ans, donc de toute façon, il n'y aura pas de condamnation de la France sur de telles expulsions, avant l'élection de 2012, mais on voit bien manifestement qu'il y a là une France qui est en pleine entorse par rapport à ses propres règles et qui est en train de stigmatiser une population qui, pourtant, je le rappelle au point de départ, n'avait rien à voir avec le fait divers qui a justifié toute cette polémique, puisqu'on était sur le fait divers de Saint-Aignan, où il s'agissait de Français sédentaires, et on arrive à partir de là, à faire en sorte de stigmatiser les Roms, nomades, pour les renvoyer en Roumanie. Donc on est bien là face à une logique d'amalgame perpétuelle, et je trouve assez douteux que l'on vienne aujourd'hui nous faire des grands trémolos dans la voix sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde dans notre pays et on ne va pas accueillir des gens qui vivent dans l'indécence sur notre territoire, alors même que la France, je le rappelle, refuse à ces personnes de pouvoir travailler, parce qu'on dit elles n'ont pas de travail, mais qu'on leur donne le droit de travailler et on verra si elles peuvent travailler ou pas. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment le savoir puisque M. Ciotti et les siens refusent que ces personnes puissent disposer du droit légal de travailler.
Alors, je voudrais vous passer la parole. Donc l'Église, c'est un événement, hein, parce que l'Église intervient peu dans les affaires publiques.
Croyez-vous.
Elle intervient peu. Et puis, elle intervient quelquefois, c'est le cas là. Donc, elle a été touchée. Pourquoi avez-vous été touchée par ce problème-là ?
L'Église intervient toujours quand l'homme est en jeu, la dignité humaine. C'est le maître mot de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est quelque chose qui est une tradition dans l'Église depuis plus de 100 ans et qui est inspiré, pour faire très court, des valeurs d'Évangile, les valeurs humanitaires d'Évangile. Il y a une tradition humaniste inspirée de cet Évangile. Et ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'angélisme. Les évêques sont des hommes de terrain. Si je prends l'exemple de l'archevêque d'Aix-en-Provence, qui récemment fait toute une déclaration, tout un communiqué, il ne fait pas cette déclaration de sa tour d'ivoire. Il se trouve à proximité de cette population et il constate des faits. Il les réprouve, il intervient. Et il intervient au nom de son éthique, de sa foi, et de tout ce que le peuple catholique réprouve. Il y a là quelque chose du côté de la morale la plus universelle. Quand tout à l'heure je disais que pour l'Église catholique, les choses ne peuvent pas se résoudre autrement qu'à échelle universelle, c'est un des deux axes de la réflexion. Il y a l'autre axe toujours présent dans la réflexion sociale de l'Église, c'est le droit inaliénable de la personne humaine. Vous pouvez vous référer par exemple au paragraphe...
Et là, il est violé ce droit,
Il est violé quand, devant des faits évidents, des évêques ou des catholiques de terrain qui sont très engagés dans le maillage social, le constatent, quand ils le constatent. Nous ne sommes pas dans l'angélisme à sous-estimer ce que seraient les graves questions de sécurité, toutes les questions internationales, parce que souvent on dit oui, mais les évêques savent pas de quoi ils parlent, ils devraient retourner dans leur sacristie, ils devraient s'occuper de Dieu, mais s'occuper de Dieu, pour nous, c'est justement s'occuper de l'homme, parce que nous croyons en cette incarnation, en ces dimensions sociétales qui sont fondamentales. Il y va d'une justice et d'une paix internationale à ce niveau. Et ce n'est pas des slogans. C'est fondamentalement ancré dans, par exemple, l'encyclique sociale de Benoît XVI. Elle est publiée en 2009. Parce que depuis quelques jours, on parle de l'intervention de Benoît XVI en son Angélus dominical. Mais Benoît XVI, dès l'année dernière, en 2009...
Il visait Nicolas Sarkozy, paragraphe, ou pas?
Non. Benoît XVI, il n'est pas là pour entrer dans un jeu politicien.
Ne lui faisons
pas dire qu'il vise quelqu'un ou une stratégie, une politique. Benoît XVI, il est là. Il fait dans son acte spirituel de commentaire de l'écriture, il s'adresse à des pèlerins en langue française, c'est d'ailleurs une chose qu'il fait plus souvent qu'on ne le dit. Ne tirons pas trop quand même le fil là pour aller lui faire dire ce qu'il ne dit pas non plus. Mais il marque le coup du côté de la fraternité universelle et il prend ce thème inspiré de l'écriture sainte. Et évidemment, pour nous, croyants, qui sommes en lien avec lui profond, eh bien nous communions à cet appel de fraternité et nous demandons qu'il n'y ait pas stigmatisation. Nous disons oui, bien sûr, à tous les éléments de nécessaire légalité, mais en même temps, pas de stigmatisation.
Très bien. Gilles nous appelle de Rennes. Bonsoir, Gilles.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Donc, comme tout citoyen, j'essaie de m'informer, de comprendre un petit peu quelle est la situation actuelle.
On essaie de vous y aider. Voilà.
Voilà, merci. Et donc, je voulais réagir par rapport à un article que j'ai lu hier dans le journal Le Monde, qui était signé par le correspondant du Monde à Bucarest, Mirel Bran, et qui donnait la parole, enfin, c'était le témoignage, en fait, d'un adolescent roumain qui s'appelle Roméo. 15 ans, il a dû quitter la France où il a vécu pendant 4 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Et manifestement, on comprend que dans l'article, il a quitté la France sans le souhaiter, justement. D'ailleurs, pour reprendre ses termes, je cite entre guillemets, il se demande pourquoi la France l'a jeté hors de France comme un chien. C'est le terme qu'il emploie, donc c'est quand même fort. Et il dit, voilà, j'aurais pu rester en France, avoir une formation, apprendre un métier. Il se retrouve maintenant dans une espèce de bidonville à 60 km de Bucarest, où là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travail. C'est la misère. Et donc, la question que je me posais, puisque le discours officiel, c'est quand même de nous dire qu'on envoie en Roumanie les Roms qui le souhaitent, qui sont volontaires pour partir. Donc, qu'en est-il, effectivement, entre ce jeune homme qui nous dit qu'on l'a jeté comme un chien et puis ce discours qui nous explique que sont volontaires seulement ceux qui partent?
Éric Ciotti, c'est une question pour vous. Ça sont-ils volontaires?
La plupart sont volontaires.
La plupart, ça veut dire quoi?
Il y a deux catégories. Oui, il y a les retours volontaires. Et puis, il y a ensuite les retours qui reposent sur une obligation de quitter le territoire français. C'est une décision administrative qui est soumise, bien sûr, à l'appréciation du juge administratif. Quand M. Sopo, tout à l'heure, disait qu'on était dans l'illégalité, je m'inscris totalement en faux. Les procédures sont encadrées, sont contrôlées, et bien sûr, chacun peut formuler des recours, et les associations ne s'en privent pas. Donc, on est réellement dans le domaine du droit. Il y a deux catégories. Il y a des obligations de quitter le territoire français. C'est en gros des reconduites forcées à la frontière. Et il y a des aides au retour. La répartition, c'est deux tiers d'aides volontaires, un tiers à peu près de retour de façon plus coercitive. Mais cette démarche, elle est encore une fois totalement inscrite dans un cadre légal, républicain. Et je voudrais répondre tout à l'heure aux représentants de la Confédération des évêques de France. Bien sûr que j'entends son message humaniste comme j'ai entendu celui du pape, mais quand Benoît XVI dit qu'il faut que chacun accueille les légitimes diversités humaines, quel pays mieux que la France, qui a une tradition d'immigration, accueille les diversités humaines? Quel pays garantit le même modèle social? Quel pays offre des revenus, un hébergement aux demandeurs d'asile? Je crois que notre pays en la matière est exemplaire et n'a pas le droit d'être traité dans ce procès un peu en sorcellerie qu'on lui fait aujourd'hui. C'est un procès outrancier, c'est un procès démagogique. Notre pays est la patrie des droits de l'homme, elle est garante de ses valeurs qui sont issues de la Déclaration des droits de l'homme, elle le fait avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'humanité, mais on ne peut pas accueillir tout le monde.
Oui.
Un chiffre,
Monsieur
Jospin, en 1997, a régularisé 90 000 immigrés clandestins. Qu'est-ce qui s'est passé? En 5 ans, le nombre des demandeurs d'asile est passé de 20 000 à 100 000 dans notre pays. On a eu sans guette. On a eu ces situations totalement inacceptables. On ne peut donner un appel d'air à l'immigration clandestine. Le problème doit se traiter à la source, dans les pays d'immigration, il faut agir sur les conditions de développement, il faut traiter le co-développement, il faut le faire bien sûr en Roumanie, c'est encore plus flagrant parce que c'est un pays de l'Union européenne, mais il faut le faire aussi dans les pays d'immigration.
Oui,
c'est ça l'enjeu, le reste n'est que démagogie politicienne.
Bon, on va vous répondre, Éric Ciotti, on va vous répondre. Malick Salemkour va vous répondre.
Oui, alors factuellement.
Et puis Dominique Sopo après. Rapidement, si vous voulez, parce
qu'il y a un état de droit. État de droit dit il n'y a pas en France de minorité. Donc, quand le président de la République dit, et le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Immigration, qu'il faut expulser les camps de Rome, et qu'en pratique, ce sont que les camps de Rome qui sont aujourd'hui expulsés, on est dans la discrimination raciste. Il y a 230 000 personnes sans abri, sans domicile fixe, en squat ou en bidonville, on choisit les 15 000 Roms. Donc ça s'appelle la discrimination ethnique. Nous avons saisi la Commission européenne dessus. Le CERD, la commission de l'ONU, fera demain ses observations et ce point sera signalé. Ensuite, dans un état de droit, la volonté, ça veut dire quelque chose. Quand vous êtes réveillé à 6h du matin par des cars de CRS, qu'on vous embarque avec vos affaires et que vous avez juste le temps de mettre du scotch sur les pauvres affaires que vous avez, et qu'on vous dit, vous avez le choix de rester là où on vous emmène en centre de rétention, où vous prenez l'avion qui va suivre dans les 4 heures qui suivent, c'est concrètement ce qui s'est passé à Lyon hier. Donc la volonté, elle s'apprécie par rapport à véritablement l'information de la personne, l'instruction effective de la volonté de la personne, et puis en effet, après, l'accueil effectif sur le territoire. Quand on nous dit qu'il y a une aide au retour et un accompagnement sur place, c'est inexact. L'OFI n'a jamais été capable de produire un véritable bilan des 24, pas 50, pas 100, pas 200, pas 8000, des 24 dossiers d'aide au projet au retour en Roumanie. Donc l'état de droit mérite d'être véritablement apprécié par rapport à la non-discrimination sur l'action publique et ensuite sur la capacité des personnes à faire des recours.
Dominique Sopo.
Alors, en quelques mots, lorsque M. Ciotti dit « oui, mais de toute façon, ce sont des retours volontaires », on voit bien que les gens sont volontaires pour repartir. Quand vous avez le choix entre avoir une aide au retour volontaire de 300 euros et d'être mis dehors sans rien, a priori, vous allez plutôt accepter de faire l'aide au retour volontaire. Donc déjà, c'est un premier élément. Évidemment qu'il n'y a pas de volonté de repartir spontanément de la part de ces populations, puisqu'elles savent très bien ce qui les attend. Le deuxième élément, c'est que je remarque tout de même, et d'ailleurs M. Ciotti l'évoquait, il y a la délinquance, on voit que les Roumains, mais qui manifestement ne sont pas les Roms, mais bon bref, sont dans des faits de délinquance nombreux. Donc on dit qu'il y a une population criminogène dans ce pays, que l'on réduit d'ailleurs au seul Rome, et donc on va les expulser. Depuis quand le pays des droits de l'homme détermine des populations criminogènes, des parties de la population criminogène, et les expulse de son territoire? Et ça, on voudrait nous dire que c'est conforme à la tradition française. Eh bien non, ça n'est pas conforme à la tradition française, parce qu'en l'occurrence, cette tradition tourne le dos à ce type de stigmatisation. Et là, on ne parle pas de tradition, en l'occurrence, puisque M. Ciotti dit « la longue tradition française montre que notre pays est une terre de diversité ». Mais on parle de l'actualité. Et l'actualité, c'est bien de mettre des coups de canif dans cette tradition des droits de l'homme et de revenir sur ce que dit M. Ciotti, à savoir l'égalité de traitement, par exemple, devant les aides sociales, que M. Sarkozy a brocardé dans son discours de Grenoble. Donc je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie et qu'en matière de démagogie et de populisme, ça n'est pas tous les commentateurs du monde entier, le pape, les associations, les intellectuels qui font preuve de démagogie. C'est quand même ce gouvernement qui a déclenché cette tempête contre lui en termes de réprobation morale, et peut-être qu'il ferait bien de s'en rendre compte. Mais je remarque d'ailleurs que ce discours des droits de l'homme qui était très brocardé il y a quelques jours, comme par hasard suite à ses critiques, revient beaucoup dans la bouche de M. Ciotti et consorts. Peut-être qu'au moins cette polémique aura servi à leur rappeler les valeurs de la France.
Arnaud nous appelle. Bonsoir Arnaud.
Oui, bonsoir. Donc, je vous appelle. Alors, c'est une question qui sort un peu du contexte des Roms et des Roumains. Mm-hmm. Donc, je suis moi-même d'origine étrangère. Bon, étrangère, certes, allemand et français. Mais je dois avouer que quand j'entends vos intervenants, et puis aussi à travers ce que je vis tous les jours, soit par les propos de mes collègues, soit moi-même en l'entendant dans le métro ou ailleurs, je suis assez choqué par l'esprit des nouveaux immigrés, qu'ils soient jeunes ou plus anciens, parce que eux-mêmes tiennent souvent, très souvent, des propos qui sont très racistes ou assez racistes. Et se disent pas français, forcément, et souvent se disent plus liés à leur nationalité. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'oublie pas aussi un peu peut-être de mettre une contrainte pour, devenir français, dans le sens où ce serait de mettre en place une forme d'éducation civique obligatoire qui serait un apprentissage de la langue, qui permettrait déjà à ces gens de s'intégrer et de comprendre le pays dans lequel ils sont, parce qu'ils pourraient lire l'histoire et pour lire comment dire sa constitution, ainsi de suite. Mais aussi d'apprendre une partie de la constitution et certaines lois qui leur permettraient de s'intégrer aussi dans le pays. Tout ça, le tout suivi quand même d'un examen, parce que c'est très facile d'apprendre des choses et puis de ne pas avoir de contraintes derrière, et voir un serment derrière qui leur permettrait d'octroyer cette nationalité à des personnes qui la choisissent, qui malheureusement actuellement, j'ai l'impression, la choisissent souvent au gré de leur humeur, plus que parfois par nécessité que économique, parce que il y a aussi des raisons criminelles parfois.
On entend bien votre argumentation.
De qui parlez-vous? Des jeunes nés en France, des gens qui viennent en France demander leur nationalité, je ne comprends pas très bien.
J'ai bien dit de nouveaux immigrés, jeunes ou plus anciens. Donc immigrés, ce n'est pas des gens qui sont nés en France.
Oui, mais vous savez, dans cette période de confusion, c'est bien de
je ne critique pas le fait qu'on a besoin d'une immigration, parce que moi-même, je reconnais quand dans la rue, je regarde les gens qui nettoient, les gens qui travaillent, qui font un certain nombre de travaux lourds, ne sont certainement pas des gens qui sont indigènes au sens français du terme.
Alors, je voudrais donner la parole à Bernard Potvin sur quelque chose de plus large, ce qu'on vient d'entendre là. Alors, il y a des incompréhensions. Il y a la question de la loi, mise en avant par Éric Ciotti, et il y a la question de la morale. C'est un grand débat, la question de la loi et de la morale. Quel est votre regard sur ce qui se passe, ce mur d'incompréhension? Comment vous voyez l'avenir de cette France-là, par rapport à ces problèmes-là, qui sont des problèmes humains?
Vous avez tout à fait raison de parler de légalité, de moralité, car le légal doit être au service du moral. Et ça, c'est quand même un fondement de notre réflexion humaniste, alors chrétienne pour ce qui est de ceux qui sont croyants, et de toute une éthique internationale. Et là encore, ce ne sont pas des mots, c'est quelque chose qui s'exerce dans le concret des relations. Notre auditeur vient de tenir des propos que, personnellement, je n'oserais porter sur ces populations qui, aujourd'hui, vivent souvent des réalités extrêmement difficiles. Le monde est dur. On est dans des situations internationales et sociétales qui sont extrêmement difficiles. Moi, je me refuse à tous ces jugements générationnels sur seraient aujourd'hui les plus grandes facilités d'insertion, où les jeunes aujourd'hui seraient plus ceci que cela. Non, je me refuse vraiment à tenir ce genre de propos. Ça me semble même inacceptable.
Mais est-ce que vous êtes inquiet?
Il y a quelque chose qui...
Nous sommes inquiets aujourd'hui.
Mm-hmm. Et nous pensons que, justement, de par les inquiétudes qui sont portées, il est d'autant plus important de nouer ensemble une réflexion. L'évêque d'Évry, Michel Dubost, qui n'est pas quelqu'un qui parle de réalité qu'il ne connaît pas. Oui. Il est dans un contexte très concret. Michel Dubost est en même temps le président de Justice et Paix. Eh bien, Michel Dubost écrit, voici quelques jours, « Je sais que beaucoup sont prêts dans les municipalités, dans les communautés, dans les associations à apporter leur contribution à la résolution des problèmes que peut poser la présence de cette population rome. Et je demande que les autorités publiques les écoutent et travaillent avec eux. » Le « avec eux ». Le maillage d'une société, c'est fondamental, c'est tout ça qui peut, sans prétention, nous n'avons pas science infuse, l'épiscopat prétend surtout pas avoir les solutions techniques, politico-juridiques, c'est pas de notre ressort, mais nous avons au nom de l'éthique à dire que nous avons à travailler ensemble. Et quand vous me demandez s'il y a une inquiétude, je vous dirais que très franchement, ça traverse énormément la communauté catholique. Le Secours catholique, qui a plus de 60 000 bénévoles à travers l'Hexagone, ne cesse de nous remonter des retours de rapports qui sont des rapports d'inquiétude. Les précarités sont grandes aujourd'hui, il faut y regarder de très près, sans esprit partisan. Moi, je ne suis pas à ce micro ce soir pour je ne sais quel... Ce n'est pas mon rôle, mais nous avons une interpellation, et c'est en ce sens que Benoît XVI est un veilleur. Benoît XVI, il n'est pas là pour dresser je ne sais quel procès en sorcellerie, comme tout à l'heure on pouvait sembler le lui faire dire, ou je ne sais quel propos humaniste gentil. Il est là pour rappeler, au nom des valeurs qui nous animent, et nous sommes avec lui, pour redire que la fraternité universelle, c'est pas du pipeau, c'est quelque chose de fondamental.
Gérard nous appelle de Villemoisson sur Orge, oui, dans l'Essonne. Bonsoir. Oui.
Moi j'ai un sentiment enfin c'est même plus de la révolte, c'est du dégoût, c'est tout ce qu'on veut. J'ai une question avant tout. Après, il reste en fait 2 ans avant les élections. Je pense que ça va être. J'avais prédit un peu comme ça. Après les Roms, c'est à qui le tour en fait au niveau de au niveau de la stigmatisation. En fait, je trouve que c'est là un peu mon sentiment. Je trouve que stigmatiser une population, quelle qu'elle soit, afin de faire des voix, je trouve ça abominable. Je pense que c'est lié au racisme. Mettre des enfants, des femmes, des vieillards dans la rue à 6 heures du matin, je pense qu'il n'y a pas de mots pour cela. Mais moi, où je suis inquiet, c'est que je pense qu'il y a une montée de l'extrême droite, aussi bien en France qu'en Europe. Et j'ai 61 ans, donc je me rappelle très bien de ce qui se passait dans les années 68. Est-ce qu'au niveau de ce gouvernement français, est-ce qu'ils ne sont pas en train de remettre ordre nouveau en place? De cette époque.
Oui, sans aller jusque-là, on va quand même poser la question à Éric Ciotti, qui est la question de ce qui était ressenti par beaucoup comme de la surenchère sécuritaire et au-delà du problème des drames des Roms. Vous pouvez répondre à la question de notre auditeur, Éric Ciotti?
Oui, bon, ces propos sont extrêmement choquants. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un état de droit, et la France est une belle et grande démocratie où chacun peut s'exprimer, où nous sommes dans un système de contrôle, la loi est votée, le Conseil constitutionnel peut censurer, le président de la République a été élu par 19 millions de Français. Aujourd'hui, quelque part, j'ai le sentiment qu'on lui fait un procès en illégitimité, et c'est ça qui me choque, parce que dans un état républicain, il y a un gouvernement qui est en charge d'une politique qui a été choisie par les Français. Cette politique, elle s'appuie sur le droit et elle a été validée par les Français. Le président de la République a été élu sur un programme qui disait très clairement qu'il y aurait une fermeté absolue contre l'immigration clandestine. Tout à l'heure, j'entendais, on faisait un peu une distinction entre le droit et la morale. La morale et la loi. Moi, je ne vois pas d'opposition entre la légalité et la fraternité. Et je le dis à Bernard Potvin, la fraternité doit aller de pair avec la légalité. Et c'est comme cela qu'on avancera. Parce que si on outrepasse la loi, si on considère que les valeurs de la République, que les lois de la République ne comptent pas, eh bien, on va lancer un formidable appel d'air à l'immigration clandestine. Et aujourd'hui, l'immigration clandestine, c'est le meilleur moyen de s'opposer à l'intégration des immigrés en France. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est faire en sorte que ce modèle d'intégration qui a fonctionné pendant des décennies en France et qui fonctionne mal aujourd'hui, il fonctionne mal depuis 30 ans, quels que soient les gouvernements de droite ou de gauche, puisse à nouveau intégrer des étrangers qui sont devenus français, qui veulent devenir français. Et l'obstacle à cette intégration, c'est tout simplement le fait qu'on puisse donner des droits à des étrangers qui sont rentrés illégalement sur le territoire national, qui s'y maintiennent illégalement. Donc le droit ne peut s'opposer à la morale, au contraire, le droit est le meilleur support à la morale. Et à la sortie, c'est tout le monde qui sera gagnant quand on fait respecter la loi de la République.
Éric, je vais vous, pour terminer cette émission, je prendrai vos commentaires, rappeler un sondage de l'Institut CSA pour le Parisien aujourd'hui en France. Alors, la question a été posée, êtes-vous favorable ou opposé aux reconduites de Rome? Et 48% des Français se déclarent favorables, 42% se déclarent opposés. Donc là, il y a une France coupée en deux. Et puis c'est quelque chose de politiquement très clivant, puisque parmi les personnes favorables à la reconduite des Roms à la frontière, on trouve 29% de sympathisants de gauche, 61% de sympathisants de droite. Et bien sûr, la tendance se retourne. Ceux qui sont défavorables à ces reconduites, on en trouve 70% à gauche et 21% à droite. Le problème, je vous le disais tout à l'heure, il est aussi politique. Le problème, vous voulez faire un commentaire
aussi? Oui, je voulais bien préciser que je n'ai jamais dit que la légalité devait être outrepassée. J'ai dit que le légal devait être au service du moral. C'est pas du tout la même chose. Je m'insurge en faux par rapport à l'interprétation qui vient d'être donnée. Le légal est au service du moral. C'est pas du tout la même chose. Et les évêques respectent d'ailleurs cette légitimité des institutions. La preuve en est que dans quelques jours, M. Hortefeux a proposé au cardinal 23 de le recevoir pour discuter de ces questions graves. Et ils se rencontreront, comme ils le font d'ailleurs, de façon tout à fait institutionnelle, fréquente. Donc qu'on ne fasse pas dire ce soir à l'Église catholique ce qu'elle ne dit pas.
Bien,
et les sondages, vous venez de dire que des sondages révèlent qu'un pourcentage important de Français se disent favorables à ce qu'on déplace ces populations. Mais vous avez quasiment le même pourcentage qui dit que ça ne résout rien.
Absolument, non, non, j'ai bien dit, c'est vraiment clivant.
Donc ça vient bien dire que nous avons à regarder les choses autrement.
Alors, un mot de conclusion, il nous reste une minute, Dominique Sopo et Malik Selimcourt, ça fait 30 secondes chacun.
30 secondes chacun, allez-y. Le cas des Roms ne sont d'abord des ressortissants européens. Ils ont la liberté de circulation, ils ont le droit d'être en France. Ils n'ont simplement pas le droit de travailler parce que la France a choisi de les empêcher de travailler. La question donc n'est pas un problème Rome, elle est un problème d'habitat. Il n'est pas normal d'avoir des gens qui vivent dehors, étrangers ou français, et après on adapte la durée de l'habitat. Et enfin, sur les Roms, arrêtons cette stigmatisation, car véritablement, ils sont là, ils font partie de l'Union Européenne, et l'Europe, elle doit se construire avec les citoyens pauvres également.
Dominique Sopo, 30 secondes aussi.
En quelques secondes, je pense que l'offensive plus globalement qui a été lancée cet été par Nicolas Sarkozy, soi-disant pour des raisons de sécurité, doit être basée sur le bon terrain. On n'est pas face à un problème de sécurité. Tout ça est quand même du flanc très largement. On est face à un problème de conception de la nation. Depuis le débat d'identité nationale, la stigmatisation des Roms, la déchéance de nationalité et demain on ne sait quoi, ce qu'on est en train de raconter, c'est un récit national dans lequel il y a des gens qui posent problème et ces gens ne sont pas français et cela est scandaleux.
Merci, merci à nos invités ici présents en studio et merci bien sûr Eric Ciotti à Nice. Merci, bonsoir. Demain, Téléphone Sonne consacré à la rentrée scolaire.
C'était le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Fabrice Drouel. Passez une bonne soirée sur France Inter, il est 20h.